Revenons à nos moutons. Même si, au cœur de l'Asie centrale, le papier avait sans doute déjà commencé à être utilisé comme support de l'écriture pour fabriquer des livres, en premier lieu le Coran, l'Empire Omeyyade, dans la partie centrale de l'Empire Omeyyade, le parchemin restait le matériau normalement utilisé à cette fin. L'origine animale du parchemin a pour conséquence des limitations sur la taille des manuscrits. En effet, les animaux les plus communément employés, les moutons, ne permettent pas d'obtenir des feuilles beaucoup plus grandes que environ 70 cm sur 50. La façon de les découper permet d'obtenir des formats différents. Les deux manuscrits que nous avons examinés précédemment ont pratiquement les mêmes dimensions, qui correspondent approximativement au quart d'une feuille de parchemin, c'est-à-dire un in quarto. En d'autres termes, la peau a été coupée en deux morceaux de même taille qui ensuite ont été pliés en deux au moment de former les cahiers qui vont constituer le manuscrit. Si l'on veut obtenir des volumes de plus grande taille, les artisans pouvaient se contenter de plier simplement le parchemin en deux et obtenir ainsi un volume in folio. Alors, pourquoi produire des copies du Coran de plus grande dimension ? Cela n'a de toute évidence rien à voir avec le texte lui-même, qui peut tenir tout entier sur des copies qui, tout en restant lisibles, ne réclament pas plus de 2,5 mètres à 3 mètres carrés de parchemin. À titre de comparaison, les deux manuscrits que vous voyez à l'écran, le Codex Parisino-Petropolitanus et le manuscrit de Fustat, ont demandé entre 18 et 20 mètres carrés. Et pourtant, comme vous le voyez, le texte coranique y est inscrit en lettres de belle taille. Le désir de produire des copies plus imposantes n'a donc rien à voir avec la lisibilité, mais beaucoup avec des enjeux idéologiques. En un demi-siècle de présence dans la région qui s'étend de l'Égypte à la Mésopotamie, les conquérants musulmans avaient eu l'occasion de connaître de manière plus précise les traditions manuscrites qui étaient déjà implantées et les techniques qu'elles employaient. Il n'est pas impossible que l'existence de copies de la Bible de format in folio leur soit devenue familière. Deux célèbres manuscrits qui se trouvaient dans la région, le Codex Sinaiticus d'une part, le Codex Alexandrinus de l'autre, sont deux témoins de la production de copies de grand format. Le premier mesure 43 cm sur 38, tandis que le second est un peu plus petit, avec des feuillets de 37 sur 32. Les historiens associent ces deux copies avec une entreprise de patronage impérial byzantin qui avait bien entendu des arrière-plans politiques. On a fait d'ailleurs l'hypothèse que le Codex Sinaiticus était l'une des 50 copies de la Bible que l'empereur Constantin Ier avait fait réaliser puis diffuser dans la région. La tâche des copistes de ces deux manuscrits n'avait cependant pas supposé de repenser la façon d'écrire dans la mesure où les dimensions du texte biblique permettait d'utiliser une écriture de taille proche de la normale tout en la disposant sur quatre colonnes, dans l'exemple précédent, et en ne changeant pas fondamentalement les dimensions des lignes. En revanche, la décision d'utiliser une peau pour chaque feuillet permettait bien sûr de réserver des marges plus importantes et explique en partie la dimension du Codex Sinaiticus. Pour le texte coranique, en revanche, la situation se présentait différemment. Certes, dans le contexte de l'époque et de la région, la réalisation de copies in folio ne représentait pas de difficultés matérielles. La technique du codex reste la même, quelles que soient les dimensions du livre, et les ressources de l'Empire Omeyyade permettaient de faire face à la dépense nécessaire. En revanche, si le volume venait à être comparé avec ces bibles in folio, la comparaison pouvait être défavorable. Le texte du Coran est en effet relativement bref, ce qui, s'il était copié selon les normes suivies par le copiste du manuscrit de Damas, aurait donné un manuscrit relativement fin, pour ne pas parler donc de cette copie in folio qui doit être légèrement plus tardive, mais dans une écriture assez chétive qui ne donne pas vraiment l'impression de majesté que l'on cherche à produire. Plusieurs manuscrits nous montrent que la question fut rapidement résolue. Tout comme des graphistes avaient redessiné les lettres de l'alphabet arabe et lui avait donné une apparence extrêmement sophistiquée au cours de ce qui semble bien être une étape antérieure, eux-mêmes, ou leurs successeurs, trouvèrent une solution pour adapter le texte coranique au format in-folio, et l'effort consenti pour produire de beaux et grands livres se poursuivit. Comme vous vous en souvenez, des travaux de restauration de la grande mosquée de Sanaa conduisirent à la découverte d'un dépôt de fragments coraniques entre le toit et le plafond de la salle de prière. Parmi les restes de manuscrits qu'on y trouva, certains présentaient des caractéristiques qui facilitèrent rapidement leur remembrement. Ce fut le cas du palimpseste dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici et qui ne nous retiendra pas, mais aussi celui d'une série de 25 feuillets dont les particularités en termes de dimension et d'écriture permirent d'identifier l'origine commune. Cette copie du texte coranique se distingue par sa taille, supérieure à la fois à celle du Codex Parisino-Petropolitanus et à celle du manuscrit de Fustat. Pour Hans Caspar von Bothmer, le membre de l'équipe allemande qui publia la découverte, il ne faisait pas de doute qu'il s'agissait d'une copie omeyyade du Coran. Les 25 feuillets qui nous sont parvenus se présentent, si je comprends bien ce qu'il a dit, sous forme de feuillets isolés. C'est du moins ainsi qu'ils se présentaient à Sanaa, où j'ai pu les examiner, mais quelques années plus tard. Je vous rappelle que, en principe, les manuscrits sont constitués par un ou plusieurs cahiers formés de feuilles de parchemin ou de papier, plus tard, pliés en deux par leur milieu et assemblés de manière à disposer d'un pli dans lequel passe la couture qui maintient le volume ensemble. L'état actuel des feuillets du manuscrit de Sanaa peut correspondre soit à la rupture des bifeuillets, à force d'être ouverts, ils se sont cassés, soit à une construction du manuscrit selon une technique différente employant des feuillets isolés. Dans leur état actuel, ils mesurent 44 cm sur 36,5, mais selon von Bothmer, les feuillets étaient plus grands à l'origine et atteignaient 51 cm sur 47. Si nous prenons en considération les dimensions actuelles, 46 sur 36,5, cela représente une augmentation de 40% de surface par rapport à la taille du codex de Fustat, dont les feuillets mesurent 37 sur 31. Si, en revanche, nous acceptons la reconstitution de von Bothmer, un feuillet de 50 cm sur 43 correspond à une augmentation de 87%, ce qui est considérable. Or, et cela nous ramène à la remarque que je faisais précédemment, les dimensions plus importantes du feuillet n'ont pas entraîné une augmentation du nombre de lignes à la page, bien au contraire. On en compte seulement 20 contre 25 sur le codex de Fustat, ou entre 21 et 28 sur le codex Parisino-Petropolitanus, qui représente assez bien l'état du premier groupe, chronologiquement parlant, de copies du Coran. Pour vous donner une idée des coûts et des différences entre ces volumes, je vous propose de comparer la superficie de parchemin nécessaire pour confectionner ce manuscrit avec celle que réclamait le Codex Parisino-Petropolitanus ou la copie de Fustat. Donc ici, c'est une copie, ce que demanderait une copie de taille, disons, assez... la taille pour avoir un Coran, disons, de dimension honnête et lisible. Là, nous avons le codex Parisino-Petropolitanus, donc 18 mètres carrés, et le manuscrit de Damas représente un saut considérable puisqu'il a nécessité 124 mètres carrés de parchemin. Bon, c'est une façon un petit peu absurde de présenter les valeurs, mais ça permet de faire une comparaison rapide. Selon von Bothmer, la taille qu'il présume avoir été celle du manuscrit à l'origine, soit 51 cm sur 47, excluait d'emblée que les feuillets aient été la moitié d'une peau de parchemin. Il avait remarqué que la séquence du côté du parchemin faisait que les côtés de même nature, poils ou chair, se faisaient face. Dans le monde musulman, le parchemin, préparé à partir de la peau d'un animal, conserve d'ordinaire, au terme du processus de fabrication, une différence de couleur et d'apparence entre le côté où se trouvait le pelage de l'animal et celui qui était au contact de la chair, donc le côté poil et pelage, et le côté chair de l'autre côté. Dans différentes traditions manuscrites, ceux qui préparaient les cahiers en vue de la transcription d'un texte, il peut s'agir des copistes, mais éventuellement d'autres personnes, faisaient souvent attention à ce que le même côté du parchemin, c'est-à-dire soit poil, soit chair, soit visible lorsque le livre était ouvert, afin d'éviter une discordance entre les deux pages qui se faisaient face. Dans le monde musulman, l'utilisation du parchemin a très vite suivi une façon de faire particulière. Ceux qui préparaient les cahiers empilaient, comme c'est présenté sur l'écran, plusieurs bifeuillets, généralement cinq, dans la même position, d'ordinaire avec le côté chair vers le haut, puis ils les pliaient par le milieu. Dans les manuscrits coraniques sur parchemin, on rencontre donc généralement une séquence de cinq feuillets, dont le recto est le côté poil, suivi d'une autre séquence avec le même nombre de feuillets, mais cette fois-ci, le recto et le côté chair. Or, comme le signalait von Bottmer, le grand Coran de Sana'a ne se présente pas ainsi. Sa confection est en revanche conforme à l'habitude que j'ai décrite initialement. En d'autres termes, le recto du premier feuillet est chair, verso poil, se trouve en face d'un autre côté poil, etc. Pour lui, parce qu'il était familier avec la façon de faire habituelle dans les manuscrits plus tardifs, ce processus n'était explicable que si les artisans en charge de la préparation du manuscrit avaient utilisé une feuille entière de parchemin pour chaque feuillet. Le copiste disposait alors de toute latitude pour organiser les feuillets comme il l'entendait. De ce fait, le manuscrit était construit différemment puisqu'il n'était pas possible de former les cahiers de la manière habituelle, c'est-à-dire par pliage, mais par assemblage. Or, la pratique des copistes des manuscrits coraniques du 7e siècle est beaucoup plus variée que cela. L'observation des copies de style Hijazi fait apparaître qu'à cette époque, une certaine diversité existait dans les façons de mettre en œuvre le parchemin pour fabriquer les cahiers, diversité qui reflétait peut-être différentes traditions locales reprises pour les premières copies du Coran. Ainsi, le Codex Parisino-Petropolitanus, qui nous a servi de modèle pour la période Hijazi dans cette galerie de manuscrits coraniques, présente des doubles pages qui sont successivement côté poil, puis côté chair, et ainsi de suite. Or, cette copie du Coran est constituée de cahiers formés de bifeuillets, donc pas de problème pour avoir cette séquence. Et en fait, si vous pliez une feuille de parchemin, tout naturellement, les côtés poils vont venir en face des côtés poils et les côtés chair en face du côté chair. Le grisé correspond, disons, au côté poil, et vous voyez qu'ils viennent se placer de cette manière. Il y a plus, donc, on a d'autres manuscrits de la période, notamment un manuscrit qui est conservé de nos jours à Berlin, dont les dimensions sont très proches de la copie de Sana'a et dont ce qui reste permet de voir qu'il était fait avec des bifeuillets, même si un bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui séparés en deux à la suite de l'usure. La taille actuelle du manuscrit de Sana'a est donc parfaitement compatible avec une production classique reposant sur des bifeuillets. Elle est de format in-folio, c'est-à-dire que chacun des feuillets représente la moitié d'une feuille entière de parchemin. Ajoutons une dernière observation. Si le manuscrit est construit en utilisant une feuille de parchemin pour chaque feuillet, il reste nécessaire de coudre les feuillets pour assurer la cohérence du manuscrit. Et donc, ça aurait présenté, bien sûr, un problème dans le cas de l'hypothèse de von Bottmer. Il fallait à ce moment-là créer des talons de manière à disposer du pli pour la couture ou sinon coudre à travers l'épaisseur. Or, si nous nous en tenons à ce que von Bottmer disait, le codex aurait comporté à l'origine 520 feuillets. Donc, imaginez cette épaisseur de parchemin qu'il aurait fallu percer de bout en bout pour réussir à coudre ensemble les feuillets et à les maintenir en place. La datation du manuscrit a été très tôt discutée, notamment à la suite de l'exposition d'une sélection de fragments de Sana'a au Musée d'art islamique de Koweït en 1984. Dès ce moment, l'attribution à l'époque omeyyade a été défendue, par von Bottmer bien sûr, mais aussi par Marilyn Jenkins, sur la base de l'analyse des décors et de leur comparaison avec des œuvres d'art contemporaines d'époque omeyyade. Peu après, une datation du carbone 14 du parchemin entre 657 et 690 est venu corroborer cette première estimation. Néanmoins, comme ce point a soulevé un débat, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard après avoir examiné ce qui reste du manuscrit. Je dirai juste rapidement un mot de l'orthographe qui peut bien sûr alimenter notre réflexion sur la date. Dans la mesure où le manuscrit n'a pas été complètement publié et où, comme je le disais plus tôt, nous n'en possédons que 5% en fait, il n'est pas possible de présenter une vue d'ensemble de la situation de l'orthographe. Toutefois, on observe que plusieurs des mots qui permettent de définir l'état archaïque de l'orthographe qu'on appelle la scriptio defectiva sont désormais écrits à la manière moderne, avec notamment l'emploi de alif pour marquer le halon. Et d'autres caractéristiques sont également plutôt indique plutôt que l'orthographe était en train de se développer et la vocalisation était notée par des points rouges, comme on l'a vu la fois précédente. Mais c'est l'écriture qui est particulièrement frappante. Alors que le manuscrit est de dimension largement supérieure à ce que nous avons vu jusqu'à présent, le nombre de lignes à la page est inférieur à celui de la copie de Foustat. Le module de la ligne fait près de 20 mm de haut, c'est-à-dire presque du double de ce que nous avons vu la semaine dernière avec le manuscrit de Foustat, où c'est aux alentours de 11 mm. Et les lettres ne sont pas seulement plus hautes, elles sont aussi beaucoup plus épaisses, ce qui implique sans doute un changement d'instrument pour les écrire, mais probablement aussi l'adoption par le copiste d'une autre position pour transcrire le texte, la manipulation des feuillets de cette dimension étant bien sûr beaucoup plus compliquée. Les formes des lettres ne sont pas purement et simplement un agrandissement de celles mises au point pour les copies du Coran du groupe du manuscrit de Foustat. Elles correspondent à une esthétique différente, avec des caractères plus gras, plus trapus et plus denses. Les formes ont changé. Le retour de inférieur de l'alif qu'on voit ici s'est considérablement développé. La haste du kaf final, et de même que toutes les autres kaf, est maintenant parfaitement verticale et non plus légèrement inclinée, comme c'était le cas auparavant. Le mim, dont nous avons vu la semaine dernière qu'il avait perdu sa queue dans le manuscrit de Foustat, la retrouve sous forme d'une petite pointe qui renoue avec une tradition ancienne. Et enfin, le noun a changé de forme. Au lieu d'être, disons, en forme circulaire, il a perdu de son ampleur. La partie supérieure est bien encore légèrement courbée, mais on a un retour inférieur qui est parfaitement horizontal et perpendiculaire au corps de la lettre. Enfin, on notera que, comme son homologue du manuscrit de Foustat, le copiste de Sana, du manuscrit de Sana, pardon, utilise volontiers ces tirets dont nous avons vu la semaine dernière qu'il permettait de donner une forme régulière à la justification. Tout indique donc que la réflexion à propos de l'écriture, dans son rapport avec le livre Coran, s'était poursuivie. Un effort délibéré a été accompli pour modifier l'apparence des lettres de manière à les adapter à un support plus important et en utiliser les possibilités afin de produire un manuscrit imposant par sa taille dans les trois dimensions, et c'est important. Jusqu'à quel point des réalisations légèrement antérieures, comme l'inscription en mosaïque du dôme du rocher, ont-elles participé à cet effort ? Malheureusement, il est difficile de le dire. Mais le manuscrit se signale également par un programme décoratif qui n'est pas moins impressionnant que celui qui est représenté par la copie du texte lui-même. Par chance, sur le peu de feuillets qui subsistent, une séquence correspondant au début du manuscrit a été préservée. Avant de m'intéresser aux trois premières pages, de caractère purement ornemental et sans doute les plus spectaculaires, je voudrais évoquer le début du texte lui-même. Il commence au verso d'un feuillet dont le recto est occupé par une enluminure. Il est placé dans un cadre dessiné de deux bandes à décor végétal qui encercle un motif de tressage dense. À l'intérieur du cadre se trouve le texte de la première sourate et se poursuit avec la sourate 2 sur le feuillet suivant. La même mise en page donc réapparaît sur le feuillet qui lui fait face, dont je n'ai malheureusement pas de photo. Et cette présentation du texte à l'intérieur d'un cadre se poursuit sur les premiers feuillets. Mais l'épaisseur du décor décroît progressivement jusqu'à se réduire à une simple bande ornée d'une succession de cercles concentriques et de palmettes, et puis après ça, le cadre disparaît. Cette présentation souligne donc l'importance du concept de double page pour les concepteurs du manuscrit, un argument déjà utilisé par von Bodmer pour expliquer la séquence des côtés du parchemin. En d'autres termes, la volonté d'avoir une présentation balancée sur chaque double page a certainement pesé dans la conception du manuscrit. Nous pouvons donc maintenant nous tourner vers les feuillets enluminés qui précèdent le texte. Celui qui est actuellement le premier, mais ne l'était probablement pas dans l'état originel du manuscrit, est réduit à un peu plus que sa seule moitié proche du fond. Il porte sur le recto de ce feuillet un décor anépigraphe organisé autour de formes géométriques concentriques, un cercle au centre et une étoile, donc le cercle est ici, et une étoile à 8 branches dont il reste un peu moins de la moitié. Le contour de chacune de ces deux figures est souligné par une bande avec un décor d'entrelacs. Dans les angles entre les pointes de l'étoile se développent plusieurs arbres, on les voit bien ici, plusieurs arbres dont la frondaison principale est de forme lancéolée et les deux autres latérales, à peu près perpendiculaires, sont plus petites. Leurs troncs prennent appui sur le bandeau extérieur du cercle central, c'est-à-dire que leur tronc passe en fait sous la bande qui constitue l'étoile à 6 branches, alternativement donc dessous et dessus. Une façon de faire dont nous rencontrerons souvent par la suite la trace dans l'enluminure islamique. Le remplissage du cercle est très endommagé et ne permet pas d'identifier la composition qui couvrait le champ. Cet ornement était-il unique ou possédait-il un pendant sur le verso de la page précédente, donc qui se serait trouvé à cet endroit, si vous voulez? Ainsi que je le soulignais, les premiers feuillets avec le texte suggèrent que les concepteurs de cet exemplaire se sont appliqués à créer des compositions sur les doubles pages et comportant par voie de conséquence deux éléments similaires, l'un sur le verso du feuillet de droite, l'autre sur le recto du feuillet suivant. Était-ce le cas ici ? C'est très probable. La double page suivante, qui correspond à ce qui est aujourd'hui le feuillet 1 verso et le feuillet 2 recto du manuscrit, est indubitablement celle qui a le plus frappé les esprits. Deux représentations d'édifices y apparaissent, chacune avec ses spécificités. Dans ce cas, la règle qui domine dans le manuscrit et qui consiste à répéter symétriquement le même décor sur chacune des deux pages ne se trouve pas complètement respectée. La minutie et la complexité des deux images demandent à ce que je les commente un petit peu plus en détail. Le feuillet 1 verso, donc la page de droite, est substantiellement endommagé, si bien que seule la moitié subsiste, la moitié gauche. L'édifice consiste en des rangées d'arcades, de part et d'autre d'une nef axiale. J'ai placé donc ces deux dessins qui sont des reconstitutions, mais il faut bien sûr voir les choses en direct, donc vous pourrez comparer cette description et cette reconstitution avec ce qui reste du manuscrit pour voir ce dont je parle. Donc, les arcades sont formées de colonnades superposées, l'une inférieure supportant un élément horizontal, une poutre ou une architrave, sur lequel est placée la seconde rangée de colonnes qui soutient les arcs eux-mêmes, soit en plein cintre, soit en triangle pour ceux qui se trouvent à côté de la nef centrale. Cette dernière, formée de trois travées visibles, est traitée de manière différente. Ces colonnes sont surmontées de capitaux corinthiens et non doriques. Celles qui ferment la troisième travée dans la partie supérieure du dessin sont jumelées, ici, et superposées, chacune d'elles représentant la hauteur d'une arcade des ailes du bâtiment. Le soin apporté à rendre avec précision les différentes composantes de ces colonnes est particulièrement remarquable. Les tores de la base ou encore les acanthes du chapiteau sont beaucoup plus travaillés que ceux des rangées latérales. Dans ces dernières, les colonnes sont striées par des chevrons, alors que les colonnes plus grandes de la nef sont couvertes d'arcs de cercle colorés qui suggère probablement les veines du marbre. La dernière travée est dominée par un arc plus épais, L'état de conservation ne permet pas de distinguer si cet espace contenait un autre décor que celui que l'on aperçoit dans la partie inférieure. Une rampe qui accompagnait un escalier, donc ça correspond à un élément qu'on voit ici, un escalier qui occupait donc la partie supérieure et dont le reste est perdu. Dans les ailes, accrochées aux poutres dont je parlais précédemment, pendent des lampes sphériques dans lesquelles on distingue une bougie ou un récipient d'où monte une flamme. L'artiste a rendu avec précision les détails de la suspension et du globe de verre. Dans les écoinçons, entre les arcs, dans ces emplacements ici, le décor polychrome pourrait faire allusion à des décors colorés présents dans des constructions d'époque omeyyade et on pense naturellement à des mosaïques. Dans la partie inférieure du bâtiment se trouvent deux portes, donc trois à l'origine. Une troisième a disparu. La première porte est placée dans l'axe du bâtiment, tandis que l'autre qui subsiste est dans l'angle même, dépassant légèrement dans la marge. À l'une comme à l'autre, on accède par des marches. Les deux vantaux de la porte sont divisés en rectangles ou carrés où sont inscrits des décors géométriques. La porte de gauche est surmontée par un arc juste à côté de l'escalier qui conduit à la porte centrale et où se trouve un vase de grande dimension qui est à cet endroit et qui est rendu un peu schématiquement ici. L'ensemble est entouré par un cadre formé par une bande d'entrelacs floral qui tranche avec le reste de l'image caractérisée par la précision matérielle du dessin. Le cadre s'interrompt en son côté supérieur pour laisser passer la dernière arche qui se projette dans la marge supérieure. Dans l'angle supérieur gauche, malgré le moins bon état de conservation de cette partie de l'enluminure, on peut reconnaître ce qui est sans doute la représentation d'un escalier hélicoïdal, dont on aperçoit un tout petit bout ici, qui est rendu de cette manière là-bas. Donc un escalier hélicoïdal qui semble prolonger verticalement le cadre. De part et d'autre, les deux éléments verticaux pourraient être des colonnes si les bases, similaires à celles de la colonnade de la grande salle, peuvent être interprétées comme telles. Face à ce premier édifice, sur la page qui fait face, donc le folio 2 recto aujourd'hui, se trouve la représentation d'un autre bâtiment qui est organisé de manière totalement différente, des rangées d'arcades entourant ce qui a toute l'apparence d'être une cour, avec en son centre une colonne sur laquelle repose un élément végétal, un arbre ou un buisson fleuri. Certains des éléments que nous avons pu observer sur le décor précédent se retrouvent, les petites colonnes d'ordre dorique décorées de chevrons, les plus grandes d'arcs de cercle et surmontées de chapiteaux corinthiens, ou encore les lampes, mais ces dernières pendent des arcs en plein cintre qui entourent la cour centrale et non d'un élément horizontal qui fait complètement défaut dans ce cas. La partie inférieure du feuillet est mutilée, il n'est donc pas possible de savoir comment se présentait la base de l'édifice, si ce n'est pour la présence d'une porte à deux vantaux qui, comme sur l'enluminure qui fait face, empiète sur la marge et rompt le cadre ornemental qui fait le tour de l'édifice. Comme dans le décor précédent, le cadre s'interrompt dans la partie supérieure pour laisser passer un arc isolé ou une niche placée dans l'axe vertical. Deux paires de colonnes jumelles, dont les fûts sont ornés d'arcs de cercle de couleur, soutiennent un arc en plein cintre d'où pend une lampe. L'arc est surmonté par un décor, en partie mutilé, dont la partie visible rappelle l'élément qui figure dans le manuscrit à la base de certaines des vignettes que nous verrons plus loin. Il me reste à relever un dernier point commun entre ces deux représentations de bâtiments de plans différents. Tous deux sont comme surmontés par une rangée d'arbres qu'on voit très bien ici. Une rangée d'arbres et de végétation. Les mêmes frondaisons lancéolées que celles qui décoraient l'étoile à huit branches réapparaissent et encadrent l'arc plus élevé qui, dans les deux cas, se trouve placé dans l'axe vertical du décor. Une dizaine de décors de séparation entre les sourates a été également préservée. À l'origine, le titre et le nombre des versets n'étaient pas indiqués, mais une main plus récente a ajouté cette information au-dessus des décors. Cette addition a probablement été réalisée par un professionnel au cours du IXe siècle. Très souvent, Le copiste a laissé une ligne en blanc entre deux sourates, mais cela n'a pas été toujours le cas. Entre les sourates 57 et 58, que vous voyez ici, il a par exemple écrit le dernier mot de la sourate qui s'achève en début de ligne, puis il a commencé, à la ligne suivante, à écrire la basmala à cet endroit. En revanche, à la fin de la sourate 67, donc la sourate s'achève ici, le copiste n'avait pas copié ses 20 lignes, mais il a laissé deux lignes où l'enlumineur a eu plus de place pour installer un décor de forme régulière. Le plus souvent, l'artiste dispose cependant d'une ligne complète et, sur une longueur variable, de la fin de la dernière ligne de la sourate précédente. De ce fait, les décors prennent souvent une forme complexe et tendent à juxtaposer deux éléments décoratifs adaptés à l'espace disponible. Très souvent, la partie la plus étroite est occupée par un décor végétal, une tige qui se glisse entre les deux sourates jusqu'à la limite de la surface d'écriture. Dans la partie la plus large, équivalente en hauteur à deux lignes de texte, on rencontre des compositions très raffinées. Elles font appel à des rinceaux complexes, fortement structurés, des arabesques, des décors géométriques ou encore des juxtapositions de palmettes stylisées en forme de cœur. Il existe bien sûr des exceptions à cette façon de faire dans le petit groupe de décors que nous connaissons. Entre les sourates 68 et 69, l'enlumineur a utilisé la fin de la ligne supérieure et la ligne entière, non pas en combinant les deux, mais en installant pratiquement deux décors différents sur deux bandeaux juxtaposés. Les décors qui ont été préservés se distinguent de ce que nous avons observé précédemment. Dans tous les cas, le bandeau est délimité, tantôt par un filet, par exemple dans le cas de la sourate 85, tantôt par des bandes plus épaisses, comme avant la sourate 91. Aucun exemple de décor se déployant librement entre deux sourates n'a été conservé, à la différence du manuscrit de Foustat, où cette façon de procéder est très bien attestée. Certes, comme vous l'avez vu, le contour n'est pas toujours celui d'un rectangle, mais du moins est-il bien indiqué sur le parchemin. Le décor des sourates représente principalement sur la répétition d'un module décoratif de base par juxtaposition dans l'axe horizontal à l'intérieur du bandeau. Nous avions observé ce procédé précédemment dans certaines des enluminures du manuscrit de Foustat, et j'avais proposé de rapprocher cette façon de faire d'une pratique bien connue dans la production de tissus de l'époque. Le répertoire décoratif des décors fait appel avant tout à la géométrie qui intervient pour structurer les bandeaux, notamment en se superposant sous forme d'un réseau de lignes blanches sur le fond coloré. Ainsi, avant les sourates 75 et 91, une série de losanges définit des espaces en forme de triangle ou de carré posés sur la pointe. Dans le premier cas, le décor reste purement géométrique, et dans le deuxième, les éléments prennent l'apparence d'un rinceau. Ils supportent des formes végétales qui paraissent apparentées à l'élément qui couronne l'arc supérieur qu'on a vu précédemment sur le feuillet de recto et qui occupe des triangles latéraux dans ce cas. Dans les carrés, ce sont des rosettes qui apparaissent. Bien entendu, l'observation est un petit peu difficile puisque l'enlumineur du IXe siècle a ajouté son titre en plein milieu, ce qui fait que la partie centrale du décor est maintenant dissimulée. Dans d'autres cas, la composante végétale est seule dans le bandeau, comme dans l'exemple qui se trouve sous la dernière ligne de la sourate 67. Ici, les tiges qui supportent les feuilles ou les fleurs qui se développent à l'intérieur des boucles du rinceau se présentent comme des filets blancs et, comme dans les cas précédents, imposent leur structure au décor. Les composantes végétales commencent cependant à s'écarter des conventions d'une représentation réaliste qui prévalait jusqu'à présent et dont le codex de Foustat nous donnait un exemple, codex où les grappes et les feuilles étaient facilement identifiables. Ici, en revanche, il faut interpréter les indices pour reconnaître ici une fleur, là une grappe. Une inspiration analogue a présidé à la composition qui sépare les sourates 99 et 100. Le parcours des tiges qui supportent les éléments végétaux est particulièrement complexe dans l'association de rinceaux de type habituel courant le long du bandeau et de boucles en forme de 8 alternativement orientées verticalement puis horizontalement. Ces tiges créent des compartiments dans lesquels s'inscrivent des éléments végétaux. D'autres bandeaux optent de manière plus nette pour un répertoire vraiment abstrait. Celui qui précède la sourate 85 repose par exemple sur l'utilisation des palmettes cordiformes que je mentionnais plus tôt, qui sont pratiquement transformées en losanges disposées de manière alternée. Les extrémités de ces bandeaux retiennent l'attention. Quand il s'agit des tiges porteuses de fruits ou de fleurs stylisées, elles s'achèvent dans la marge par une ultime floraison. Dans le cas de bandeaux plus larges, la solution est différente. Le décor lui-même s'achève légèrement en retrait à l'intérieur de la surface d'écriture. La limite théorique est à cet endroit, mais vous voyez que les bords sont en retrait. Donc le décor s'achève en retrait et le petit côté sert de support à un ornement, une vignette, qui empiète plus ou moins dans la marge. Les formes rencontrées pour ces vignettes varient considérablement, certaines adoptant une forme lancéolée, c'est le cas ici, tandis que d'autres sont formées par un assemblage complexe d'éléments d'inspiration végétale. De même que le début du texte figurait dans un cadre, de même sa fin a-t-elle reçu une présentation analogue. Un fragment du feuillet avec la sourate 114, c'est-à-dire la dernière sourate du Coran, montre une mise en page similaire à ce que nous avons vu au début. C'est encore une fois une très précieuse indication sur la façon dont les symétries et les équilibres étaient recherchés par les artisans du livre qui ont pris part à ce projet considérable qui ne peut être compris que si nous pouvons le replacer dans son contexte. Comme je le disais en commençant, la datation du manuscrit a été très tôt discutée. Dès 1984, une attribution à l'époque omeyyade avait été défendue par von Bothmer et par Jenkins sur la base de l'analyse des décors et de leur comparaison avec des œuvres d'art contemporaines. Cette position a été contestée par Estelle Whelan, qui a publié un article à propos de ce manuscrit. Elle mettait d'ailleurs en doute, de manière plus générale, l'idée que des restes de manuscrits coraniques antérieurs au IXe siècle aient pu subsister. Comme elle l'écrivait dans un article publié en 1990, et je la cite, « Aucune preuve extérieure connue à ce jour ne permet d'attribuer de manière incontestable quelques manuscrits coraniques ou groupes de manuscrits que ce soit à une période antérieure au IIIe siècle de l'Égyre, IXe siècle de l'ère commune. » Ce point de vue a marqué les études sur les manuscrits coraniques anciens depuis le XIXe siècle. Il avait cependant de quoi surprendre, puisque Whelan avait défendu, sur la base de témoignages textuels, l'idée que des copistes transcrivaient le Coran dès la seconde moitié du VIIe siècle, s'opposant ainsi à l'hypothèse de John Wansbrough, qui avait fait en son temps beaucoup de bruit, en faveur d'une constitution tardive du corpus coranique à la fin du 8e ou même au début du 9e siècle. Une copie du Coran remontant à une période aussi haute, postérieure de peu d'années à l'inscription du Dôme du Rocher, représentait en principe un nouvel argument de poids pour démontrer l'inanité de l'hypothèse de Wansbrough. Mais pour Whelan, aucun vestige matériel de cette phase ne pouvait avoir été conservé. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à douter de la date du manuscrit. Dans un premier temps, la qualité même, le style ou encore les caractéristiques matérielles des décors paraissaient tellement éloignées de tout ce que l'on connaissait alors de l'art du livre dans les débuts de l'islam que plus d'un spécialiste est demeuré sceptique. La comparaison avec des œuvres d'art omeyyade et de l'Antiquité tardive fournissait pourtant des pistes intéressantes. De nouveau, le répertoire des mosaïques du Dôme du Rocher et de la Grande Mosquée de Damas comportait des éléments qui étaient familiers de toute évidence aux enlumineurs du manuscrit de Sana, ce qui d'ailleurs a conduit von Bothmer à faire l'hypothèse plus discrètement que celle de la date que le manuscrit avait été produit en Syrie. Depuis les palmettes employées dans les encadrements aux arbres qui surmontent les deux édifices, les ressemblances ne manquent guère. Les deux représentations architecturales de la première double page préservée pourraient représenter une adaptation à une copie coranique d'un élément qui figure à l'époque en tête des copies des évangiles et dont la copie syriaque dite de Rabula, qui est conservée de nos jours à Florence, donne un très bon aperçu. Les tables des canons y présentent une concordance des épisodes communs aux quatre évangiles, commençant par ceux qui se trouvent dans tous, pour finir par ceux qui n'ont qu'un seul parallèle, c'est-à-dire avec deux colonnes, comme on le voit à la fin de la série. Ici, c'est le début. La raison d'être de ces tables est bien sûr très étroitement liée au texte des évangiles. Mais l'élément de présentation adopté, une série d'arcades où prennent place les renvois, a pu suggérer une adaptation à une situation précise, celle d'un manuscrit coranique. Je rappellerai également que dans la tradition de l'Antiquité tardive, la mise en scène d'un personnage dans un décor d'arcade renvoie à une imagerie impériale, comme le montre dans le même manuscrit de Rabula, une représentation du Christ ou encore des évangélistes dans un cadre ou dans des cadres formés par des arcades. Sous les Omeyyades, une fresque de Qasr al-Hayr al-Harbi montre la survivance de ce décor, même si, dans le cas qui nous occupe, bien sûr, il ne s'agit pas de personnages très importants, puisque c'est d'un côté un personnage qui joue d'un instrument de musique et de l'autre, quelqu'un qui tient une flûte et est en train d'en jouer également. Les deux édifices du manuscrit de Sana ont suscité des interprétations très variées, indépendamment de celle de von Bodmer, sur laquelle je vais revenir dans un instant. On a par exemple proposé d'y reconnaître une représentation des chambres paradisiaques dont il est par exemple question dans le verset 75 de la sourate 25. Je cite « Ceux-là auront pour récompense les salles du paradis, en arabe « Khurfa », ou encore ce passage de la sourate 34, je cite de nouveau « Ceux-là auront des salles, « Khuraf » en arabe, au-dessus desquels d'autres salles seront construites et au pied desquelles couleront des ruisseaux. » Ces références avaient antérieurement été invoquées pour expliquer les paysages des mosaïques avec des jardins et des bâtiments, des jardins où coulent des ruisseaux, sur les mosaïques qui sont dans la cour de la grande mosquée de Damas. Le détail des salles au-dessus desquelles d'autres salles seront construites, s'appliquerait particulièrement à la peinture du feuillet 1 verso, où nous avons effectivement des étages. Toutefois, l'hypothèse de von Bodmer, qui pensait que les deux édifices étaient des mosquées, a été le plus souvent suivie par les gens qui se sont depuis intéressés aux manuscrits. L'historien de l'art allemand poussait plus loin son raisonnement. Pour lui, les deux édifices aux caractéristiques bien différentes renvoyaient en fait à des réalités extrêmement précises. La rupture de la règle de la symétrie, dont nous avons des traces dans le manuscrit, s'explique en effet seulement parce que le travail des enlumineurs répondait à des instructions données par le commanditaire. Je ne commande pas les différents arguments sur la raison de l'attribution de l'explication de la mosquée, mais vous avez compris que les vases qui se trouvent en bas sont des vases qui contiennent de l'eau pour des ablutions et que cet élément de mobilier qui se trouve dans la partie supérieure de la partie centrale du décor numéro 1 est un minbar selon l'interprétation traditionnelle. Bien sûr, comme il n'en reste pas grand-chose, ça peut avoir une dimension hypothétique. Donc, pour revenir à l'explication de ces décors, les deux mosquées seraient celles de Damas au feuillet 1 verso et de Médine au feuillet 2 recto. Je vous propose de jeter un coup d'œil à cette comparaison. Ici, d'un côté, vous avez la reconstitution qui a été faite du décor dans son état originel, et de l'autre côté, le plan de la mosquée de Médine par Jean Sauvaget, après la restauration par Al-Walid, avec une cour centrale et donc des arcades tout autour. l'autre mosquée, donc celle-ci. J'ai modifié légèrement l'orientation du plan pour vous permettre de retrouver les éléments, l'axe de la grande mosquée de Damas, ici, et sur le côté, donc, les arcades de la salle de prière. Ici, il s'agit de la cour avec les deux édicules. Donc, les deux, nous savons que, par les sources que les deux mosquées ont été remodelées à l'initiative du calife Al-Walid Ier, à la fois pour agrandir et pour embellir ces deux lieux de culte. L'un d'entre eux étant étroitement associé à la figure de Mohammed, qui est enterré, la mosquée de Médine, l'autre se trouvant dans la capitale de l'Empire, Damas. Le luxe de l'opération expliquerait d'ailleurs l'apostrophe d'un vieillard médinois au calife. Je le cite, « Nous les construisons, les mosquées, nous les construisons comme des mosquées, mais vous, vous les construisez comme des églises et des synagogues. » Fin de citation. Donc, le très indigné de ce qu'on reprenne et qu'on fasse d'ailleurs appel à des artisans mosaïstes chrétiens qui étaient venus jusqu'à Médine. Notre manuscrit serait donc une commande impériale destiné à commémorer et exalter l'action du calife qui a pu avoir envoyé cette copie, et d'autres peut-être, dans les grandes villes de l'Empire. Von Bothmer attribuait donc le manuscrit à la fin du règne d'Al-Walid, au moment où les deux opérations étaient parvenues à leur terme, c'est-à-dire entre 710 et 715, et considérait, selon moi à juste titre, que les résultats de l'analyse du carbone 14 ne devaient pas être pris littéralement. L'ajout des titres a pu être réalisé au IXe siècle, ce qui suggère que le manuscrit était encore en usage à cette date et entouré de suffisamment de considérations pour qu'on demande à un enlumineur professionnel de mener à bien ce travail. Mais von Bothmer a attiré l'attention sur un épisode qui est légèrement postérieur, au XIe siècle, et qui pourrait expliquer le fait que nous possédons ces feuillets et pas d'autres. À cette époque, en effet, un cadis de Sanaa fit recouvrir les décors omeyyades qui ornaient le mihrab de la grande mosquée de la ville parce qu'il estimait qu'il distrayait les fidèles de la prière. Lorsqu'on se penche sur les feuillets qui ont été retrouvés dans la cache de vieux manuscrits, on est frappé de constater qu'ils couvrent essentiellement le début et la fin du Coran, les points qui, dans cette copie, étaient les plus richement enluminés. Von Bothmer posait la question de savoir s'ils n'auraient pas été intentionnellement arrachés du manuscrit parce qu'ils étaient trop ornés au goût d'autorités religieuses, soucieuses de protéger les fidèles de distractions peut-être un petit peu coupables. La réalisation de copies de grande taille représente une tradition bien vivante dans le monde musulman. Un hadith d'une authenticité douteuse parce que le personnage a difficilement pu voir des réalités de cet ordre. Donc un hadith d'une authenticité douteuse met dans la bouche du calife Omar, le deuxième calife de l'islam, un vif encouragement à produire des Corans de dimensions imposantes. Omar est donc le prédécesseur de Osman, mais il a tenu son rôle dans une mise par écrit qui aurait lieu à l'initiative d'Abou Bakr, qui est son prédécesseur direct. Donc l'historicité de la chose est à prendre avec précaution. Quoi qu'il en soit, la sanction des autorités les plus saintes est évidemment recherchée pour soutenir les mérites des manuscrits de grande taille, sans que les raisons en soient toutefois clairement explicitées. Une utilisation liturgique est exclue, puisque la prière se passe en l'absence d'un manuscrit où on ferait des lectures. Donc, d'autres explications doivent être recherchées à cette valorisation de la taille des copies. En replaçant cet épisode, et plus généralement la production de grandes copies dans le contexte du Proche-Orient à la fin de l'Antiquité tardive, les manuscrits du Coran de grand format peuvent être compris comme une façon d'affirmer la place de l'islam face aux religions présentes à cette époque dans la région et de reprendre, en le détournant à son profit, l'usage qu'elle faisait de volumes de grande taille pour leurs écritures. J'ai signalé le parallèle qui peut être établi avec le Codex Sinaiticus. la plus connue des grandes Bibles moyen-orientales. J'y ajouterai une découverte récente faite sur le site de Penjikent en Ouzbékistan, juste à côté de Samarcande, où les archéologues ont découvert une fresque des environs de 740 qui suggère que les Mazdéens de Sogdiane intégraient un manuscrit de grande taille à des rituels publics. Le Coran de Sana représente donc une nouvelle étape dans l'histoire du codex coranique sous les Omeyyades. Il ne faut pas penser que ce manuscrit se substituait à ceux que nous avons vus précédemment. Le coût d'une telle copie la réservait à des circonstances particulières et à des commanditaires qui disposaient des moyens de soutenir une entreprise aussi coûteuse, puisque si nous acceptons que le manuscrit, selon la reconstitution de von Bothmer, comptait 520 feuillets, ça veut dire que 260 moutons avaient été transformés en parchemin pour produire le manuscrit, sans compter bien sûr la main-d'œuvre pour la copie et pour l'enluminure. Donc c'était quelque chose de vraisemblablement extrêmement coûteux. Si cette entreprise peut effectivement être rattachée à la figure du calife Al-Walid, il s'agit d'une initiative audacieuse pour associer les réalisations du souverain à une copie du Coran. Nous avons pu précédemment déceler, derrière le manuscrit de Fustat, le lien entre les manuscrits et le pouvoir en place, puisqu'il pourrait représenter cette opération lancée par Al-Hajjaj ibn Yusuf d'imposer un manuscrit réformé. Mais ici, il s'agit décidément d'autre chose. On donne à voir, au début du manuscrit, les deux mosquées qu'Al Walid a remodelées. Il s'agit donc d'un nouveau type de moussaf, pour reprendre le titre d'un article de Solange Horry, nouveau pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'on fait en quelque sorte une représentation de ce que le calife vient de faire pour que les gens dans d'autres villes voient son œuvre, et nouveau également parce qu'il exploite des ressources techniques qui n'avaient pas été mises en œuvre jusqu'alors pour les manuscrits du Coran. Même s'il n'est sans doute pas le premier exemple de copie in folio du Coran, puisqu'il a pu en avoir d'autres, il est très probablement le premier à exploiter les possibilités offertes par ce format de manière aussi habile et audacieuse, le ou les copistes inventant un style d'écriture destiné à donner littéralement du volume à la parole divine. Je vous remercie.